Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Quand le face-à-face entre les deux pays ennemis que sont les États-Unis et l'Iran fait craindre chaque jour un peu plus un embrasement, cette nuit, le président américain a fait parvenir un message aux autorités iraniennes pour les informer de l'imminence d'une attaque, tout en leur faisant part de sa volonté de dialogue.
En Europe, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'entendre hier soir sur les grands postes à pourvoir.
Et les 28 qui n'ont pas davantage réussi à s'accorder sur l'objectif de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050.
Dans votre journal, également des milliers de militants européens réunis dans la Ruhr allemande pour une action d'une ampleur inédite.
Depuis ce matin, tous convergent vers une mine de lignite, un charbon brun, bon marché et extrêmement polluant. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande de ne pas implanter de nouvelles écoles à proximité de lignes à très haute tension. L'ANSES pointe un lien possible entre la leucémie infantile et certains champs électromagnétiques. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Arthur Bouvard, journaliste au collectif Forbidden Story, pour une nouvelle enquête collaborative autour des crimes environnementaux de l'industrie minière. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
À l'occasion des 50 ans de la mission Apollo, retour sur une conquête spatiale et artistique. Quelle place la Lune occupe-t-elle dans les imaginaires collectifs aujourd'hui encore? Comment est-elle représentée? Deux invités, le documentariste Patrick Jeudy et la commissaire de l'exposition La Lune au Grand Palais, Alexia Fabre.
Merci et à tout à l'heure. Le pire a-t-il été évité après l'incident au cours duquel un drone américain a été abattu par l'Iran et à en croire la presse américaine, Donald Trump aurait approuvé en représailles la nuit dernière des frappes contre un éventail de cibles iraniennes avant finalement de se raviser et d'annuler l'opération au tout dernier moment, alors même que plusieurs navires de guerre s'étaient mis en position et que des avions de chasse avaient même déjà décollé. Ou quand les craintes autour d'un possible conflit ouvert au Moyen-Orient ne se limiteraient plus aux seules expressions évoquant tantôt un accès fièvre, tantôt une escalade des tensions. Dorénavant, rien ne semblerait pouvoir totalement exclure une réaction disproportionnée conduisant à une guerre entre les deux pays. Alors le New York Times, qui a révélé cette information, précise ne pas savoir à l'heure actuelle si une offensive américaine contre l'Iran est toujours programmée. Et puis, précision importante, le journal indique par ailleurs ne pas avoir établi si le locataire de la Maison Blanche avait changé d'avis ou bien si ce revirement était dû à des interrogations stratégiques ou logistique. Il faut dire que le ministère américain de la Défense, qui depuis le début du mandat de Donald Trump est vu plutôt comme un pôle de modération dans l'administration, s'est retrouvé fragilisé cette semaine avec le départ soudain de son chef, de sorte que le Pentagone a de plus en plus de mal aujourd'hui à faire contrepoids à l'influence des faucons, qu'il s'agisse du secrétaire d'État Mike Pompeo ou du conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Les explications de Mar Waman.
À Washington, ce sont les partisans d'une ligne dure, intransigeante face à l'Iran, qui sont à la manœuvre. Le conseiller à la sécurité national, John Bolton, et le secrétaire d'État, Mike Pompeo. Tous deux soutiennent ardemment l'option militaire, contrairement au Pentagone qui a mis en garde contre un risque d'escalade incontrôlée. Philippe Golub, spécialiste des États-Unis.
Bolton et Pompeo, ce couple-là, extrémiste au sein de son administration, les faucons, poussent à l'affrontement et poussent à la guerre. La volonté là semble claire. Il s'agit de pousser l'Iran à la faute par une stratégie, comme ils le disent eux-mêmes, de pression maximale, qui pousse à la guerre.
Face à Téhéran, Donald Trump souffle le chaud et le froid. Il fait parvenir un message aux autorités iraniennes pour les informer de l'imminence d'une attaque tout en disant vouloir négocier un calcul risqué, selon Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Il faut bien comprendre, c'est que je pense que les dirigeants politiques iraniens ont changé de logiciel, c'est-à-dire depuis début mai. Bon, avant, ils étaient ce qu'ils appelaient une politique de passion stratégique, c'est qu'ils encaissaient les coûts liés aux énormes sanctions économiques américaines. Maintenant, ils sont rentrés dans une logique de à la fois répondre coup pour coup, mais ne pas provoquer forcément une guerre. Et on voit très bien que les tensions sont énormes et le moindre incident, comme les Iraniens ont quand même changé de politique avec l'idée un petit peu quand même de répondre et de marquer leur territoire, là, effectivement, on rentre dans une période très dangereuse.
Malgré les déclarations répétées de Washington et de Téhéran selon lesquelles aucun des deux ne cherche la guerre, la multiplication des accrochages ces derniers jours fait craindre qu'une étincelle ne mette le feu aux poudres.
Toujours aux États-Unis, le Sénat a décidé hier de bloquer une vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Plusieurs élus de la majorité républicaine ont voté avec les démocrates pour s'opposer à cette vente que l'administration Trump avait pourtant autorisée en invoquant notamment une situation d'urgence provoquée par l'Iran de manière à contourner le Congrès. Un signe très clairement de défiance donc à la politique de Donald Trump favorable à Riyad. Reste que ni l'une ni l'autre des deux chambres ne devrait être en mesure de réunir les deux tiers des voix nécessaires pour annuler le veto que le président américain a d'ores et déjà promis de leur opposer en retour. Et puis un peu plus tôt, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la justice britannique qui avait, elle, décidé de suspendre les licences de vente d'armes à l'Arabie Saoudite. La Cour d'appel de Londres a estimé que le gouvernement avait enfreint la loi en autorisant l'exportation vers Riyad d'armes qui pourraient avoir été utilisées dans le conflit au Yémen. Alors cette décision n'impose pas l'arrêt immédiat des exportations d'armes britanniques, mais elle suspend de fait l'octroi de nouvelles licences d'exportation vers le royaume wahhabite. S'agissant du Yémen, justement, la coalition militaire sous commandement saoudien a déclaré avoir mené la nuit dernière des frappes autour du port d'Odeida, contrôlé par les rebelles chiites houssis. Un communiqué relayé par la presse officielle saoudienne est publié quelques heures seulement après que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a lui annoncé la suspension partielle de son aide humanitaire. Le PAM explique qu'une part importante de cette aide est aujourd'hui détournée par les protagonistes du conflit qui s'en servent comme d'un instrument politique. Les dirigeants de l'Union européenne ont échoué hier soir à s'accorder sur les noms des prochains présidents de la Commission, du Conseil, de la Banque centrale ainsi que pour le poste de haut représentant pour les affaires européennes. Un sommet de crise a du coup été convoqué pour le 30 juin prochain dans l'espoir donc de sortir de l'impasse. Et puis dans ce contexte de tractations politiques complexes, les 28 n'ont pas davantage réussi à dégager une unanimité autour de l'objectif de passer à la neutralité carbone d'ici 2050, ni même à relever leurs efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Trois pays en réalité, la Pologne, soutenue d'ailleurs par la Hongrie, la République tchèque et l'Estonie, se sont opposés donc à un accroissement de l'ambition européenne. Véronique Robérod, bonjour.
Bonjour.
Même si une majorité de pays soutient donc la neutralité climatique, la référence à 2050 a été reléguée en bas de page. Et c'est évidemment, Véronique, une occasion manquée de taille dans cette bataille que mène aujourd'hui l'UE contre le dérèglement climatique.
Avec des pays plus engagés que d'autres dans cette bataille, même s'ils étaient nombreux, 24 sur 28 pays européens, à défendre cet objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, les nations de l'Est, la Pologne en tête, ont tout bloqué. Donc la Pologne, pourtant un des pays les plus pollués d'Europe, mais à cause de son charbon qu'elle détient encore en quantité. Le travail mené depuis des mois par la France, l'Espagne et les Pays-Bas pour convaincre leurs homologues européens dans cette stratégie de long terme a donc été balayé après deux heures de débat qualifié d'intense hier à Bruxelles. La décision d'une neutralité carbone en 2050 qui nécessitait l'unanimité a été donc rejetée par la Pologne qui au dernier moment est parvenue à rallier la République tchèque, la Hongrie et l'Estonie. Mais dans la déclaration finale donc du Conseil, il est sobrement écrit pour une grande majorité d'États membres, la neutralité carbone doit être atteinte d'ici 2050. Encore une occasion donc manquée pour l'Union européenne, un, d'affirmer son leadership sur le climat et aussi deux, de combler un peu le fossé entre l'urgence climatique agitée dans tous les discours européens et la réalité de l'action. Ça n'empêchera pas plusieurs pays individuellement d'inscrire cette neutralité carbone en 2050 dans sa législation. Le Royaume-Uni vient de le faire en France. L'objectif devrait figurer dans les tout prochains jours dans un projet de loi énergie-climat.
Merci Véronique Robérod. Venus de toute l'Europe, plusieurs milliers de militants anti-charbon se sont élancés comme prévu à l'aube pour tenter d'occuper une mine de lignite dans l'ouest de l'Allemagne. Alors rappelons que depuis que le pays a renoncé au nucléaire, sa dépendance au charbon s'en est trouvée automatiquement prolongée. Il représente encore près de 40% de la production d'électricité outre-Rhin. Or même si le gouvernement vient de décider son abandon d'ici 2038, eh bien cette échéance est jugée encore trop lointaine par les activistes, d'autant qu'il n'existe toujours pas pour l'heure de calendrier précis pour la fermeture des mines et des centrales. Ludovic Piétenu, bonjour.
Oui, bonjour Thomas.
Vous êtes dans la Roure, donc sur ce site d'extraction du charbon, où depuis tôt ce matin, des milliers d'activistes en combinaison blanche, le visage souvent masqué, tentent de forcer les nombreux barrages de policiers pour déferler dans les travées de cette gigantesque mine.
Oui, tout a commencé aux alentours de 10h ce matin. Deux groupes, deux colonnes de chacune, 1000 personnes environ, ont quitté le camp de base à pied. Et c'est là que le jeu du chat et de la souris avec la police commence. Les objectifs de chacune de ces colonnes ne sont connus que de quelques personnes. Et ce sont elles qui dirigent les opérations. Première embûche, la police a fait fermer la gare de Viersen, tout proche du camp de base. Les activistes d'N2, Gelände comptaient prendre le train. C'est raté. Ils vont donc devoir trouver une autre solution, peut-être des bus, peut-être encore à pied, s'ils veulent atteindre cette gigantesque mine à ciel ouvert de Garzweiler, où je me trouve, une mine aussi grande, plus grande même que la ville de Nantes, et distante d'environ 20 km de ces premiers groupes de militants. La police ici les attend, elle a déployé d'importants moyens pour les empêcher de pénétrer sur ce site. Il y a notamment des canons à eau, un hélicoptère dans le ciel, des caméras. Bref, les militants vont prendre tout leur temps. Ils ont prévu de tenir 48 heures et d'être renforcés au fil des heures. On vient d'apprendre par exemple que deux autres groupes, soit encore au total 2000 personnes, viennent de s'élancer du camp de base. De quoi ajouter encore un peu plus de confusion dans ce jeu du chat et de la souris. Et il se dit aussi que pourrait arriver un peu plus tard dans la journée, dans la soirée et demain, une partie des milliers de jeunes élèves, vous savez, qui font la grève scolaire pour le climat chaque vendredi et qui manifeste en ce moment même depuis une demi-heure environ dans les rues d'Aix-la-Chapelle. C'est à moins de 50 km d'ici. Voilà qui va rendre très difficile petit à petit la mission de protection des mines et des centrales à charbon de la région par la police.
Merci Ludovic Piétenu, en direct donc de la mine de Garzweiler dans la Roure. On connaît depuis hier soir les noms des deux derniers prétendants encore en lice pour succéder à Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique. Boris Johnson, tout d'abord, l'ex-ministre des Affaires étrangères, fervent partisan du Brexit, qui aura constamment fait la course en tête tout au long de la phase parlementaire de ce processus. Et puis Jeremy Hunt, d'autre part, l'homme qui lui a succédé au Foreign Office et qui initialement avait mené campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'UE, avant de finalement passer dans le camp du Brexit. Alors Jeremy Hunt s'est qualifié d'extrême justesse. Deux voix seulement le séparent du ministre de l'Environnement, Michael Gove, ex-bras droit de Boris Johnson. Et il est de notoriété publique que Johnson était plutôt favorable à un duel contre Hunt, un adversaire jugé plus facile que Michael Gove, d'où les suspicions désormais d'une possible manipulation du scrutin par l'équipe de Johnson, qui aurait pu utiliser donc sa large réserve de voix pour donner la consigne à certains de ses supporters de se reporter sur l'actuel ministre des Affaires étrangères. Quoi qu'il en soit, la parole est désormais aux quelques 160 000 adhérents du Parti conservateur et le résultat devrait être connu d'ici un mois. Des centaines de manifestants vêtus de noir ont convergé ce matin sur le centre du pouvoir local de Hong Kong. Voilà plusieurs semaines maintenant que le territoire semi-autonome est le théâtre d'une contestation historique contre un projet de loi visant à autoriser les extraditions de l'ex-colonie britannique vers la Chine continentale. Alors devant la pression de la rue, la chef de l'exécutif pro-Pékin a annoncé la suspension du texte, sauf que les contestataires réclament le retrait définitif du projet de loi. Et puis une nouvelle illustration de cette crise, les manifestants exigent à présent la démission de la chef du gouvernement. Plusieurs syndicats d'étudiants avaient donné un ultimatum au gouvernement, ultimatum ignoré, et c'est ainsi que depuis ce matin, donc, les étudiants font le siège du quartier général de la police à quelques centaines de mètres du Parlement. Les précisions de notre correspondante Florence de Changy.
Ils sont actuellement plusieurs milliers à faire littéralement le siège du quartier général de la police, un très haut bâtiment à Wan Chai. Tous sont en noir, comme pour la marche en noir de dimanche dernier. Certains portent aussi un petit ruban blanc au poignet ou sur le t-shirt en souvenir du manifestant qui s'est tué il y a 6 jours, tout près d'ici. Ils ont pour la plupart le visage masqué pour ne pas être reconnus, disent-ils, et ils occupent à présent toutes les rues qui entourent l'immeuble.
On leur demande de libérer les gens qu'ils ont arrêtés. C'est cela qu'on chante.
Ils exigent aussi des excuses pour le terme d'émeutier utilisé par le chef de la police et la chef de l'exécutif. Ils ont en revanche renoncé à obtenir la démission de Carrie Lam. Mais ils continuent de demander l'abandon total de la loi d'extradition et non sa simple suspension. La police de son côté a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention d'intervenir, au moins jusqu'à nouvel ordre.
La Mauritanie se prépare à voter pour une élection présidentielle historique. Demain, le vote doit en effet marquer la première transition dans le pays entre un président sortant et son successeur élu. Comme le prévoit la Constitution, le chef de l'État sortant, donc Mohamed Abdelaziz, au pouvoir depuis 10 ans, cède son fauteuil. Pour lui succéder, le pouvoir a choisi comme candidat son compagnon de toujours, un ancien général, Ould Ghazouani. Et face à lui, 5 candidats sont en lice, dont le principal opposant, Sidi Mohamed Ould Boubacar, qui a déjà été 2 fois Premier ministre. C'est un reportage à Nouakchott, signé Edouard Tropsi.
Sidi Mohamed Ould Boubacar est le président qu'il nous faut. C'est ce que chante cette femme sur la pelouse du stade Sherbaïa, où 10 000 personnes se sont rassemblées pour ce dernier meeting de campagne.
Boubacar, Inch'Allah, il va gagner, on va rentrer au palais.
Les supporters de celui qui est soutenu par Tawassoul, le parti islamiste proche des frères musulmans, sont en verve. Et lorsqu'il prend la parole, c'est pour dénoncer les manquements de l'État et promettre un redressement économique.
Depuis 10 ans, la Mauritanie est victime de la corruption et de la mauvaise gouvernance du pouvoir. Nous allons changer tout cela, ensemble.
Dans les gradins bondés, Hassan lui veut une chose.
On a marre de l'armée, on a marre de tenues uniques. Donc on a besoin maintenant de faire un vrai changement. Donc pour nous, le changement maintenant, c'est avec Mohamed Boubacar qui est expérimenté. Il va réunir tout le monde, toutes les couches, toutes les castes mauritaniennes. Il va les réunir.
Si le pouvoir assure que toute la transparence sera faite lors du scrutin, les candidats doutent, dans un pays où la fraude est monnaie courante.
Les lignes à haute tension représentent-elles un risque pour la santé des enfants ce matin? Tout en recommandant de ne pas implanter de nouvelles écoles à proximité des lignes à très haute tension, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a de nouveau alerté sur un risque possible de leucémie chez les enfants qui habitent à proximité. Claire Flochel, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a une dizaine d'années déjà, l'Agence nationale de sécurité sanitaire avait pointé du doigt ces champs magnétiques basse fréquence émis notamment donc par les lignes haute tension. Or, même si pour l'instant aucun lien de cause à effet n'est formellement démontré, eh bien les dernières études, Claire, ne sont pas franchement rassurantes.
Oui, même si les rapports antérieurs à 2010 trouve plus de liens entre lignes à haute tension et leucémie infantile que ceux publiés après cette année-là. Mais vous le disiez, certaines études récentes établissent tout de même une association. Alors pourquoi autant de résultats hétéroclites? Eh bien parce qu'il est plutôt compliqué de mesurer précisément l'exposition réelle. Nous manquons également sans doute de recul pour bien comprendre de quoi nous parlons. Les champs magnétiques basse fréquence sont tous ceux dont la fréquence est inférieure à environ 8,3 kHz. Ils sont émis par les lignes à haute tension, une infrastructure le plus souvent aérienne qui sert au transport de l'électricité, mais aussi par les aimants, les appareils électroménagers ou encore l'ensemble des câbles électriques dans lequel un courant circule. La plupart des études épidémiologiques portant sur les fréquences utilisées pour le transport d'électricité. Au final, les leucémies infantiles, cancer qui touche les cellules de la moelle osseuse, sont les seules maladies dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire estime qu'un lien avec les champs basse fréquence est possible. Selon l'ANSES, près de 50 000 enfants tout de même sont exposés chez eux ou à l'école à des niveaux de champs magnétiques supérieurs à la normale. À titre de précaution, l'agence recommande donc de ne pas installer des écoles ou des crèches à proximité des lignes à haute tension ou de ne pas implanter ces lignes à proximité de ces établissements. Elle préconise aussi et surtout d'intensifier la recherche sur le sujet, notamment sur les liens avec d'autres pathologies comme le cancer du sein ou la maladie de Parkinson.
Merci Claire Flochel. L'invité de la rédaction, à présent aujourd'hui, Arthur Bouvard, journaliste à Forbidden Stories. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, rappelons que Forbidden Stories, donc Histoire Interdite, est un réseau de journalistes d'investigation qui a été créé en 2017 pour poursuivre en réalité le travail d'autres reporters, eux, menacés, emprisonnés, parfois même assassinés, alors par des groupes criminels ou des entreprises ou des gouvernements qui veulent faire taire leur travail, empêcher la publication en somme des histoires sur lesquelles ils enquêtent. Vous vous êtes donc donné pour ce mission de contourner la censure en publiant leurs histoires, c'est bien cela ?
Exactement. On est parti du constat que les journalistes menacés sont souvent très isolés et il nous paraissait essentiel à nous de mettre notre force d'enquête et de publication au service justement de ces journalistes pour amplifier leurs histoires et raconter aussi la leur.
Alors Green Blood, sang vert, c'est donc le nom de la nouvelle enquête collaborative internationale lancée par votre collectif. Une trentaine de médias ont uni leurs efforts pour dénoncer les pratiques particulièrement opaques de plusieurs géants du secteur minier, l'une des industries aujourd'hui les plus destructrices dans le monde. 8 mois d'enquête au total, et vous avez choisi de vous concentrer donc sur 3 pays en particulier, Tanzanie, Guatemala et l'Inde. Que ressort-il de ces enquêtes ?
Alors, on s'est intéressé à ces 3 pays, 3 mines, une mine d'or en Tanzanie, une mine de nickel au Guatemala et des mines de sable en Inde. On s'est aperçu que les journalistes étaient souvent très menacés quand ils s'approchaient très près des activités de ces entreprises qui sont souvent très puissantes dans ces pays. Ça nous paraissait très important parce que ces histoires sont globales. Ces minerais, ces métaux se retrouvent ensuite, sont vendus sur les marchés internationaux et se retrouvent dans nos produits du quotidien aussi en Europe.
Alors, vous disiez que les journalistes étaient menacés. On va prendre peut-être, pour commencer, le cas du Guatemala. Là-bas, c'est l'industrie du nickel qui provoque la colère des populations locales, en l'occurrence de pêcheurs indigènes, qui dénoncent donc l'impact environnemental de cette mine établie sur leurs terres ancestrales. L'un d'entre eux a d'ailleurs été tué. Et un journaliste local est lui poursuivi parce qu'il a rapporté cette affaire.
Exactement. Tout est parti d'une photo prise le 27 mai 2017. Ce journaliste, Carlos Schock, qui travaille pour le média Prensa Comunitaria, a pu photographier et filmer la mort de ce pêcheur. Sur la photo, on voit derrière des policiers qui pointent une arme. Les policiers n'avaient pas le droit d'utiliser des armes réelles. Quand Carlos Schock a publié cette photo, il a ensuite fait l'objet de nombreuses poursuites. Ça fait 2 ans qu'il fait face à une machine judiciaire très très lente au Guatemala. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Et il attend toujours de pouvoir rencontrer le juge qui le poursuit.
Et en Tanzanie, alors là, c'est un autre journaliste, Jabir Idrissa, qui dénonce donc, lui, les agissements autour d'une mine d'or.
Oui, Jabir Idrissa était rédacteur en chef de 2 des principaux journaux d'investigation en Tanzanie, Mwaiyo et Mwanalisi. Jabir Idrissa s'est intéressé à la mine de North Mara, dans le nord de la Tanzanie, depuis 10 ans. Il avait commencé par travailler sur les pollutions environnementales, qui ont commencé en 2019. Il a ensuite plus récemment enquêté sur le volet économique de l'industrie minière en Tanzanie. Et suite à sa publication, son journal a été fermé. Aujourd'hui, Jabir Idrissa est au chômage. Il ne peut plus travailler, il ne peut plus publier, même avec un prête-nom. Les journaux tanzaniens ne veulent plus prendre ses histoires.
Et puis le dernier lieu donc de ce triptyque dans cette enquête, c'est l'Inde, où des journalistes, notamment Sandhya Ravishankar, donc dévoilent au péril de leur vie les agissements de véritables mafias du sable cette fois-ci.
Oui, Sandhya Ravishankar, qui travaille dans le sud de l'Inde, dans le Tamil Nadu, est la seule journaliste là-bas à enquêter depuis 5 ans sur les réseaux mafieux et criminels qui extraient le sable, notamment dans le sud du pays, pour y récupérer des minerais. C'est une enquête qui était très difficile pour elle et pour nous, car les gens ont extrêmement peur de parler dans ces villages en fait qui sont complètement contrôlés en fait par les entreprises minières.
Alors si les crimes environnementaux de l'industrie minière sont bien au cœur de cette nouvelle enquête, il faut aussi rappeler qu'au moins 13 journalistes ont été tués depuis 2009 pour avoir enquêté donc sur des scandales environnementaux. Le total pourrait même atteindre 29 cas, étant entendu que le comité pour la protection des journalistes enquête toujours, je crois, sur 16 autres décès suspects.
C'est ça ? Exactement. Nous avons pu recenser avec CPJ 13 cas de journalistes qui sont morts. Il est parfois très difficile de faire la lumière sur les raisons derrière la mort d'un journaliste. Il reste 16 cas effectivement à enquêter. 29 cas, c'est un bilan qui pourrait s'alourdir très prochainement. Oui.
Merci Arthur Bouvard, journaliste. Donc je rappelle à Forbidden Stories d'avoir répondu à notre invitation. Puis je rappelle donc le titre de cette enquête collaborative, donc Green Blood sans vert. On termine avec un mot de météo, un ciel instable cet après-midi dans le sud-ouest, sur le massif central et les Alpes, avec des pluies localement soutenues, accompagnées par endroits d'orage. Partout ailleurs, le temps sera plus calme. Quant aux températures, elles évolueront entre 17 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Antoine Marette pour le prochain journal de la rédaction.